bonjour à chacun, à chacune.
Voilà, c'est le désir de nos cœurs, du mien en tout cas, premièrement, comme Ernest l'a dit, que mes pensées soient rendues captives de celles de Jésus-Christ. Tel est le premier point qui est le mien, afin que de ma bouche puissent sortir les paroles même de Dieu pour chacun de nous, pour répondre à nos besoins. Ah, on est réjouis quand le Saint-Esprit conduit toutes choses, parce que pendant ce temps de louange, on a commencé par la conclusion du message. Et ça, c'est super. Pendant la semaine qui vient de s'écouler, il y a eu le souvenir d'un fait important dans l'histoire mondiale et en particulier dans l'histoire de la Belgique. Et je dois dire que lorsque cet événement d'il y a 101 ans s'est passé, je n'étais pas né, ni vous non plus. Et pourtant, je connais cette histoire et je peux la relire grâce aux documents, Internet, les livres, et je bénis les professeurs, les instituteurs qui m'ont enseigné sur cette période de l'histoire. Il y avait même, si j'ai bon souvenir, un libellé dans le bulletin qui était distribué à chaque trimestre ou chaque mois, il y avait une note qui était la civilité. Et il fallait répondre à cette exigence de civilité. Et je me pose la question, en regardant ce qui s'est passé cette semaine, qu'en est-il de la génération d'aujourd'hui? A-t-elle encore le souvenir de ce qui s'est passé? Et pour ceux qui n'ont pas compris, et j'en fais sans doute partie, je voudrais rappeler que le 11 novembre, lundi, il y a 101 ans que l'armistice de la Première Guerre mondiale 14-18 a été signé. Et je veux profiter de cette occasion pour réfléchir ensemble sur le grand armistice avec Dieu, dans lequel Dieu a proposé lui-même de faire l'armistice entre des ennemis, entre des révoltés, entre ceux qui étaient en rébellion contre lui. Il a offert son armistice avec nous. Vous avez compris que le sujet que nous allons aborder, c'est l'armistice avec Dieu. Je voudrais développer, et même si nous n'avons pas terminé, vous en connaissez la conclusion, c'est la victoire que Dieu offre. Trois volets à notre prédication ce matin. Premier volet, un fait acquis. L'armistice n'est plus à signer. Si pour la guerre 14-18, elle a été signée et qu'il y a eu des récidives, avec Dieu, c'est signé définitivement. Deuxième fait, comment mettre en pratique cet armistice dans notre quotidien? Et le troisième volet, ce serait quand enfin une armistice définitive et totale, complète et parfaite. La Bible fait mention, oui, avant, je voudrais lire avec vous quelques textes de la parole de Dieu sur lesquels nous allons nous appuyer pour développer ces différents sujets, ces différents volets, et cela se trouve essentiellement dans l'Épître aux Colossiens, Colossiens au chapitre 1, et je lis au verset 20. Colossiens, chapitre 1, verset 20. Il, c'est-à-dire Dieu, a voulu par Jésus-Christ tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez ferme et inébranlable dans la foi, sans vous laisser détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Selon ce que nous venons de lire, c'est la volonté de Dieu, pas des hommes, de réconcilier l'homme avec lui. Et ça s'est fait à grand prix. Nous allons tourner la page et je vais avec vous dans Colossiens au chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet des fêtes d'une nouvelle lune, etc. La Bible fait mention de guerre. Il suffit de lire l'Ancien Testament pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de guerres qui y sont mentionnées. Et à ce propos, une petite parenthèse, si cela nous est écrit, c'est pas pour refaire ces guerres, mais c'est pour notre instruction spirituelle et pour rentrer dans un autre combat que le combat contre la chair et le sang, mais pour rentrer dans un combat spirituel. Tel est déjà le deuxième volet qui sera abordé. La Bible fait donc mention de guerre entre les peuples, de rébellion entre Dieu et son peuple et les hommes, mais elle parle de manière unique, de la paix, à savoir qu'elle parle de l'armistice de Dieu, avec Dieu, de la paix que Dieu offre avec lui, et de là découlera si nous sommes basés sur ce fondement d'être en paix avec Dieu, de là doit découler, bien sûr, pour notre vie quotidienne, comme on l'a souligné ce matin, la paix du cœur. C'est-à-dire la paix que Dieu dépose dans un corps lorsqu'il y a le trouble, lorsqu'il y a l'inquiétude. La tranquillité de l'âme quant à l'avenir et quant au présent. La paix de Dieu dans nos cœurs parce que nous sommes en relation avec ce Dieu de paix et que nous sommes réconciliés avec lui. Mais de manière pratique, la paix entre les hommes. Une vie harmonieuse entre les hommes, sans conflit, sans querelle. Et cela essentiellement parmi ceux qui se revendiquent de ce Dieu de paix et qui servent le prince de la paix. Christ. L'Épître aux Éphésiens dit « Christ est notre paix ». Christ, personne d'autre. Les hommes essaient de construire la paix, mais elle n'est pas durable. Quand Christ pose un fondement, c'est durable et c'est pour l'éternité. Jésus est venu de la part du Père annoncer la cessation de la guerre avec Dieu. Il est venu payer de sa vie la réconciliation avec Dieu qui peut devenir notre Père dans la mesure où nous nous plaçons sur le fondement qui est Jésus-Christ, notre paix. N'essayons pas d'aller trouver ailleurs la paix éternelle se trouve dans l'auteur de la paix, à savoir le prince de la paix. Elle se trouve dans celui qui en est la substance même et qui l'a révélée. Si nous lisions l'Épître aux Éphésiens, quand il est question « Christ est notre paix », il est question d'une réconciliation entre des Juifs et des non-Juifs pour en former un seul corps, un seul troupeau. Bien-aimés, l'Église, elle est composée de différentes personnes, de différentes nations, de différents peuples. Il y a même des borins dedans. C'est pas sans, hein, voilà, des Polonais aussi, hein. Oui, hein. Appelés à vivre harmonieusement ensemble. Bien-aimés, rappelons-nous chaque jour ce que Paul dit aux Romains, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » De là découle ce que Jésus disait, « Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. » Et pour la vie en Église, ah, qu'il est beau et qu'il est agréable que des frères, des sœurs vivent ensemble dans l'harmonie. Et quelques exemples sont alors notés pour mieux comprendre ce psaume 133. Je voudrais donc tirer instruction de cet événement qui a été rappelé ce lundi 11 novembre et en tirer quelques comparaisons pour découvrir comment ce fait indiscutable de l'armistice avec Dieu s'est opéré. En 1918, le 11 novembre, c'est dans un wagon-restaurant en forêt de Compiègne, en France, à 5 heures du matin, que des représentants officiels des principaux pays en guerre signaient l'armistice, c'est-à-dire la fin de la guerre 14-18. Victoire totale pour les uns, pour les combattants belges et leurs alliés. Heureusement qu'on a eu des alliés. Heureusement que quelqu'un d'étranger est venu pour nous sauver, qui n'avait rien à faire sur cette terre pour venir nous délivrer de la puissance de l'ennemi. Mais là, j'envisage déjà le deuxième volet. Bon, ça s'arrête là. Mais si c'est une victoire pour nous, être libéré de l'oppresseur, de l'ennemi, c'est la défaite pour l'occupant, c'est la défaite de l'ennemi. Comment ça s'est passé avec Dieu? Bien-aimé, c'est pas dans un wagon que ça s'est passé. Un wagon confortable, passe assis sur un fauteuil en velours bien rembourré. Le traité de notre paix avec Dieu a été signé sur un bois de malédiction. Un bois dur. Un bois sur lequel le Seigneur Jésus a été cloué, pieds et mains. c'est le bois de la croix. Comme c'est différent de la paix proposée avec les hommes entre eux. Bien-aimé, si ce wagon était un restaurant et que nous venons de découvrir que pour le Seigneur Jésus, c'était la croix, c'était pas pour lui un restaurant, c'était pas pour lui un wagon restaurant. Étoilé dans un guide Michelin quelconque, avec un menu succulent, avec du caviar, du foie gras, tout ce que l'on peut imaginer venant de France. Non. Pour le Seigneur Jésus, on lui a donné du vinaigre. Pour nourriture, sa seule nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. C'était d'accepter de passer par la croix du calvaire. C'était le seul chemin pour nous mettre en réconciliation avec Dieu. Pour mettre ceux qui étaient en rébellion, des ennemis de Dieu, puissent être réconciliés et avoir une espérance vivante. Il était affamé de faire la volonté de Dieu. Il avait hâte de passer par ce baptême de la mort. Si ce wagon restaurant était placé dans une forêt, pour la croix du calvaire, c'était pas dans une forêt, et la période du mois de novembre fait susciter que il y avait la couleur des arbres chatoyante. Pour le Seigneur Jésus, c'était sur un mont qui ressemblait à un crâne. Golgotha. C'est là où le prix de notre réconciliation avec Dieu a été payé. Si dans ce wagon restaurant en forêt, il y avait des hauts gradés de la société civile et militaire, pour le Seigneur Jésus, il était en compagnie de deux brigands, placés au nombre des malfaiteurs. Et le seul désir qu'il a, c'est d'implorer le pardon du Père pour ceux qui sont ses ennemis, qui le maltraitent. Pour ceux qui, lorsqu'il rentre dans Jérusalem en triomphateur, quelque temps après, osent dire « Crucifie, crucifie-le. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Et quand il est sur la croix, alors que sous l'instigation des hommes religieux qui se moquent de lui, le peuple crie « Descends de la croix et nous croirons en toi. » Jésus garde le silence. Il est là, maltraité, opprimé. Il est là comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il est là comme une brebis muette devant ceux qui la tontent et il n'ouvre pas la bouche. Et là, sur la croix du calvaire, en compagnie des malfaiteurs, son seul désir, c'est de permettre à celui qui se tourne vers lui comme l'un des malfaiteurs de dire « Aujourd'hui, tu es réconcilié avec Dieu. » Si dans ce wagon restaurant en forêt de Compiègne, en compagnie des hauts gradés, des colonels, alors que le Seigneur aurait pu revendiquer ses droits, lui n'était pas habillé de vêtements somptueux. Il n'avait pas de galon, comme les hauts gradés là. 5 barrettes, 3 étoiles, 5, 6, tout ce qu'on veut là. Il aurait pu se revendiquer du titre de créateur, mais comme Jean-François l'a lu tantôt, il s'est humilié. Il est paru comme un simple homme. Son visage n'avait rien d'attirant. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Alors que Pilate, de quoi avait-il, était-il habillé? Alors que Pilate donne le choix au peuple, qui voulez-vous que je vous relâche? Jésus ou Barabbas? Et le peuple de dire Barabbas, et après celui qui est d'ailleurs en rébellion contre l'autorité, il nous est dit que Pilate a donné l'ordre de battre de verge le Seigneur Jésus. Ils ont tracé de larges et profonds sillons dans son dos. Les soldats lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Il devait puer ce manteau. Ils tressèrent une couronne d'épines et l'ont mis sur sa tête. Comme on est loin des habits des officiers dans ce wagon-restaurant. Une couronne d'épines qu'ils ont posée sur sa tête. Ensuite, ils mettent dans sa main un roseau, dans sa main droite. Ils s'agenouillent devant lui et ils le ridiculisent. Salut, toi qui te dis roi des Juifs. Ils crachent sur lui. Est-ce que vous vous rendez compte, l'humiliation? Cracher sur le Créateur. Ils prennent le roseau et frappaient continuellement sur lui. Ils lui ont tiré le poil de la barbe. Et après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent, quand il était là au pied de la croix, ils lui ôtèrent le vêtement. Et là, Jésus porte sa croix. Et quand, sortant du tribunal, Pilate leur montre celui qui est dans cette apparence, couvert de crachats, avec dans son dos de larges et profonds sillons, avec sur sa tête cette couronne d'épines, Pilate dit au peuple, voici l'homme. Bien-aimé, comme on est loin de ce qui s'est passé dans le wagon-lit, avec des habits somptueux, il nous est dit que, avant de le clouer sur la croix, les soldats prirent ses vêtements et lui en firent 4 parts, un pour chaque soldat. Il y avait donc 4 soldats et ils ont tiré au sort quelle était la part que chaque soldat allait avoir. Et puis ils prirent sa tunique qui était sans couture. Et il nous est dit qu'ils ne l'ont pas déchirée, de façon à ce que l'Écriture soit accomplie. Faut-il être étonné, bien-aimé, que parle le prophète, parle David au psaume 22 de manière prophétique, le Seigneur Jésus, puisque ce psaume commence « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que quand on voit de quelle manière les hommes ont appuyé le Seigneur Jésus, faut-il s'étonner que au psaume 22, verset 6, il est dit de lui, « Moi, je suis un ver et non un homme. » Un ver. Cette bestiole que l'on retrouve dans le fumier et qui est donnée aux pâtures, aux poules. Avez-vous saisi, bien-aimé, quel était le prix de notre réconciliation avec Dieu? Le contrat, si dans ce wagon-lit, ce wagon-restaurant, a été signé avec une belle plume et de l'encre bleue, noire, peu importe. Le contrat signé avec Dieu a été signé par le sang de Jésus-Christ. Dieu a réconcilié des ennemis avec le sang de son Fils bien-aimé. À quelle heure cela s'est passé? À 5 heures. au début d'une ère nouvelle, l'aube d'un nouveau jour de victoire. L'armistice enfin signé à 5 heures du matin. Pour Jésus, c'était en plein jour, à midi. Mais le soleil ne brillait pas. Il y avait d'épaisses ténèbres sur la terre. Et c'est mon avis, la parole de Dieu ne le souligne pas. Je pense que le cœur de Dieu était tellement triste de voir que son Fils bien-aimé, fait homme, acceptant de prendre la place de l'homme sur la croix du calvaire, que le châtiment de notre paix est tombé sur lui, que Dieu n'a pas voulu que les hommes voient ce qui se passait pendant ces 3 heures sombres de la croix. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous met en relation avec Dieu est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si l'armistice a été signé à 5 heures du matin, elle n'a été rendue effective qu'à 11 heures. Pour Dieu, l'armistice a été signé lorsque sa sainteté a été pleinement satisfaite. Nous avons de la peine, bien-aimés, à comprendre, et nous sommes même révoltés lorsque la justice des hommes ne se réalise pas. Pour un tel crime, il est déjà sorti de prison. Pas pensable. Mais alors, quand on met un juste en prison et qu'on le découvre par après, là, on est encore plus révolté. Bien-aimé, permettez-moi de souligner que le seul juste que la terre ait porté, c'est le Seigneur Jésus. Lui, juste, meurt pour des injustes, pour nous amener à Dieu. Cette signature, elle a été parfaitement accomplie. L'armistice a été signé lorsque Jésus a dit ce cri de victoire. Tout est accompli. Rien à ajouter. Et Dieu a scellé ce cri de victoire en ressuscitant son Fils bien-aimé d'entre les morts. Sa victoire, sa résurrection, elle est notre justification, bien-aimée. Nous sommes rendus justes en Jésus-Christ. Rien à ajouter à cela. Elle nous donne d'être justifiés devant Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul, écrivant aux Romains, dit. Étant donc justifiés, nous avons la paix. De sorte que si le prix a été payé pour notre rédemption, pour notre rachat, pour notre libération, pour être en communication avec Dieu, pour être dans une relation vivante. Jésus a frayé ce chemin nouveau et vivant au travers de sa chair qu'il a donnée à la croix du calvaire et duquel est sorti du sang et de l'eau qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Bien-aimés, ceci est un fait. Et l'Église, comme chaque croyant, a le devoir de claironner ce fait indéniable. Christ a fait la paix par le sang de sa croix avec Dieu qui peut devenir maintenant notre Père dans la mesure où nous nous approchons de Jésus-Christ. L'armistice avec lui, avec Dieu, est signé. Et chaque fois que nous nous rassemblons et qu'il y a sur cette table les symboles avec des éléments le pain et le vin, bien-aimés, nous nous rappelons le prix de notre réconciliation avec Dieu. Que jamais personne n'oublie ce fait pour en vivre. L'appel que le Seigneur a eu sur ma vie, j'ouvre une parenthèse ici et je vous la dépeins parce qu'elle est sur mon cœur. Si, lorsque nous partageons le pain et le vin en souvenir de la mort du Seigneur Jésus, du prix payé pour notre rançon, pour notre paix avec Dieu, si nous nous rappelons qu'il y a une espérance vivante qui est rattachée à la croix de Christ, nous nous devons aussi de rappeler cela à nos enfants. Quand j'étais petit, il a fallu que l'instituteur me rappelle, m'enseigne sur ce fait indéniable du 11 novembre. Est-ce qu'en tant qu'Église, nous prenons le fait de raconter à nos enfants ce que signifie la Sainte Cène et de quelle manière nous l'apprenons? C'est important pour que eux-mêmes soient le relais de ce que nous voulons proclamer. Et je m'appuie sur ce fait. En ce qui concerne le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte par le sang répandu autour de la porte, lorsqu'il est dit dans Exode chapitre 12, lorsqu'ils pratiquaient la Pâque en souvenir de cette libération, lorsque tes enfants te demanderont, que signifie pour toi, pour vous cet usage, vous leur répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Tu diras à tes enfants, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait. Et lorsque le peuple est rentré dans le pays promis, au travers du Jourdain qui était mis à sec, là aussi, comme la mer rouge. Josué a reçu des ordres de la part de l'Éternel lorsque l'arche a pénétré. Tu prendras 12 pierres, tu fais un tas, là, au milieu du Jourdain. Et puis ces pierres ne se verront plus puisque le Jourdain va à nouveau couler. Mais tu prendras aussi 12 pierres, tu les mettras sur le bord du rivage, à Gilgal, là. Et quand tes enfants te demanderont, que signifient ces pierres, vous leur direz. Bien-aimés, quand nous partageons le pain et le vin, nous avons le droit de raconter à nos enfants ce que signifient ces symboles. Pour que eux-mêmes, quand ils auront la maturité de prendre ce repas du Seigneur, puissent le faire en pleine conscience et soient le relais de la proclamation de l'Évangile. À ce contrat, pour terminer le premier volet, quelle heure est-il? Ah oui, j'ai ma montre, c'est ça le compte. Ah oui. À ce contrat, il manque une chose, pour que ça devienne réel dans ma vie. Dieu a signé. Mais juste à côté de sa signature, il y a un petit cadre, pour accord. Ton nom, ta signature et ta date. Alors, est-ce que tu peux me dire si tu as déjà signé ce contrat avec Dieu? Alors, si tu l'as signé, si tu en connais la date, si tu as marqué, ok, d'accord, si tu es passé par le chemin de la repentance, et si tu as reconnu que Jésus-Christ était mort pour te mettre en réconciliation avec lui, tu reconnais que c'était pas dans un wagon-restaurant, mais c'était dans quelque chose de plus affreux, à cause de tes péchés, à cause que tu étais ennemi, alors signe-le. Et dans ton cœur, tu auras la paix avec Dieu, une relation vivante par Jésus-Christ. Il va te prendre par la main, il va te conduire vers son Dieu, il va dire, mon Dieu est maintenant ton Dieu, et mon Père, il est maintenant ton Père. Je suis vivant et je reviens bientôt. Et ça, c'est le deuxième volet. Je vais l'esquisser brièvement. Que s'est-il passé après d'avoir signé dans le wagon l'armistice? Si ça a été signé à 5 heures du matin, ce n'est qu'à 11 heures, 6 heures plus tard, que le cessez-le-feu est devenu réel, effectif. C'est alors qu'à 11 heures du matin, les clairons, les cloches de toutes les églises ont commencé à sonner. Les gens ont commencé à sortir sur la rue pour dire, ça y est, victoire, on est libéré. On est délivré. Tous ces bruits de victoire remplaçaient le bruit des canons et des hurlements de douleur. C'était la fin de la guerre des 4 années de misère, de peur, de barbarie, de tuerie sauvage. La fin de la guerre. Cela signifie que ce matin du 11 novembre, entre 5 heures du matin et 11 heures du matin, il y a eu les derniers combats qui ont fait beaucoup de ravages. 11 000 morts, plus que dans une journée de combat normal. Le mot n'est pas bien approprié. Ces 11 000 derniers morts sont venus s'ajouter aux 10 millions de combattants. En tout 20 millions, avec les civils tués. 11 000 morts, beaucoup plus que lors d'une grosse opération militaire. C'est à 11 heures que le cessez-le-feu a été déclaré officiellement. Durant ces 6 heures, on était dans le déjà l'armistice, et le pas encore. Il y avait là une mise en pratique qui devait être communiquée de bouche à oreille. Bien-aimés, nous, chrétiens, Église d'aujourd'hui, nous sommes dans l'après-croix du calvaire, dans un après-fait qui a été signé, et pas encore dans l'armistice pleine et entière du ciel. On est là, aujourd'hui, proclamant que le diable a déjà sa tête écrasée, mais que ce diable rôde, que ce diable est à l'œuvre, et nous sommes invités à veiller les uns sur les autres pour que ce diable qui rôde autour de nous ne vienne pas faire des ravages. Ne soyons pas comme des Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Non. Nous sommes invités à veiller les uns sur les autres de manière solennelle. Et l'Église, pendant ce temps de combat sur cette terre, attend bien sûr la pleine délivrance, attend l'armistice définitif que Dieu a promis. Et cela, si pour dans la plaine de dans le pays en guerre, il y a eu à 11 heures du matin le son du clairon, les voix de libération. Je vous rappelle que pour nous, nous attendons la trompette de Dieu. Ah, mes amis, au son de la trompette, au son de l'archange, le Seigneur lui-même descend pour nous ravir de cette terre de misère et nous introduire dans la maison du Père. Et en parlant de l'Église céleste, sous la forme de Jérusalem céleste qui descend d'en haut du Père, du ciel, pour venir régner. Il nous est dit que il essuiera, le Seigneur essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses premières sont passées. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et le Seigneur glorifié dit à Jean qui écrit cette lettre à l'Apocalypse, « Ces paroles, c'est certain et véritable. Écris ceci, Jean. » Maintenant, c'est fait. Maintenant, c'est fait. Nous sommes bien-aimés dans le temps d'un fait unique, signé à la croix du calvaire, où Jésus a prononcé « Tout est accompli ». Et ce temps où, rentré dans la gloire, le Seigneur, au milieu des siens, pourra alors dire « Maintenant, c'est fait ». Plus de combat, plus rien de cette terre, les choses de la terre, souillées par le péché, sont passées. Maintenant, tout est devenu nouveau. Nous devons comprendre qu'il nous appartient pendant ce temps d'aujourd'hui, qui est un temps que Dieu fait grâce et appelle tous les hommes à être réconciliés avec lui. Il est impératif que l'Église proclame, mais chacun de nous, soyez réconciliés avec Jésus-Christ, avec Dieu. Soyez. C'est un ordre, parce que notre paix, elle est en Christ. Mais nous sommes aussi invités à être sur cette terre, et en particulier dans l'Église, des instruments de paix. Des instruments de paix. Soyez, on bien-aimé, dans l'Église des artisans de cette paix, afin de montrer au monde que nous sommes des communicateurs de la réconciliation avec Dieu. Nous sommes invités à nous efforcer à mordre notre chic. Bien souvent, on veut avoir le dernier mot, hein. Nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit pardon, par le lien de la paix. Vous connaissez tous la prière de saint François d'Assise. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Là où se trouve la discorde, que nous fassions l'unité. Et je vous invite à relire cette prière de saint François d'Assise. Il faut savoir donner pour être comblé. Il faut savoir s'oublier pour se retrouver. Il faut savoir pardonner pour obtenir le pardon. Il faut apprendre à mourir pour obtenir la vie éternelle, mourir à soi-même. Aujourd'hui, le monde entier, oui, j'allais dire ceci, oui. Chaque fois que les armes se sont tues dans le monde, tout le monde s'est toujours promis plus jamais ça. D'ailleurs, il suffit d'aller à Dixmude, il y a là une immense tour, avec plusieurs langues, j'évite de le dire en flamand, « Nooit meer oorlog », plus jamais de guerre. Quel beau slogan théorique, bien-aimé. À peine 30 ans après, la guerre recommençait, hein, 40-45. Aujourd'hui, on se dit en paix. À voir ce qui s'est passé hier à Paris, je ne sais pas où est la paix. La paix aujourd'hui, bien-aimés, le monde est à sang et à feu. Je peux regarder dans tous les pays, ça s'ébranle de partout. La guerre d'aujourd'hui est devenue plus sournoise. Avant, on se tapait dessus, maintenant c'est devenu sournois. Il y a la guerre économique, la guerre entre les puissances financières, dont le pauvre pâtit et le riche s'enrichit. Il y a l'appel à l'individualisme, contraire à l'Évangile. Il y a l'appel à la haine et au fanatisme. Il y a l'insécurité dans nos villes. Et on pensait que l'universalité, la mondialisation, allait donner solution aux différents soucis monétaires, politiques, religieux, armés, écologiques, etc. Ça n'a rien apporté. Au contraire, ça empire. Alors, on se pose la question, mais quand sonnera l'armistice de toutes ces guerres sournoises? Moi, je connais une solution. Moi, j'attends un homme. Mais l'homme que j'attends, il est différent de celui du monde. Le monde, il attend un homme qui va remettre les choses en place. Et cet homme, c'est l'Antichrist. Il va se montrer sous un joug beau. Un joug qui est beau, mais après quelques années, je pense qu'il va se montrer sous un autre joug, sous son vrai visage. Moi, j'attends un homme, celui qui m'a racheté, qui m'a réconcilié. C'est l'homme Christ Jésus, qui a acheté mon âme et qui, quand il revient, va transformer ce corps de faiblesse en un corps semblable au sien et va m'introduire dans la maison du Père. Alors, quand sonnera l'armistice? On a dit tantôt, quand ton règne vienne, Seigneur, hein, on attend que le Seigneur prenne autorité sur cette terre pour instaurer son règne de paix et de justice. Là, c'est ça la vraie justice, hein, je vous promets. Et dans l'Église, que désirons-nous? Plus jamais ça. Chaque fois que l'Église, je ne parle pas d'ici, hein, je parle de pâturage, hein, chaque fois que l'Église est sortie d'un mauvais pas, d'un temps de discorde, d'un temps de... on se piquait plutôt que de se frotter l'un à l'autre comme un troupeau de moutons. On se frottait comme si nous étions un troupeau de hérissons. Ça se pique, ça se mord, ça se bouscule. Et quand on sort, après un temps d'humiliation, de ces situations difficiles, on se dit plus jamais ça, plus jamais. Et pourtant, rappelons-nous, bien-aimés, que nous avons été rachetés à grand prix. N'oublions pas que nous avons des enfants qui nous regardent. Quel exemple l'Église donne. Je parle des enfants qui sont en bas âge, mais aussi des enfants, des nourrissons dans la foi, qui ont encore une foi chancelante. Alors, bien-aimés, encore aujourd'hui, notre ministère, c'est d'être des ambassadeurs du ciel. Notre ministère, c'est de proclamer à tout quiconque qui était encore ennemi de Dieu, je t'en supplie, Dieu a signé le contrat de réconciliation. Sois réconcilié. Rappelons-nous que nous étions des ennemis, loin de Dieu, et maintenant devenus enfants de Dieu par pure grâce. Amis, avons-nous compris lorsque Jésus dit, aimer vos ennemis? Dois-je épiloguer encore là-dessus? Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Avons-nous saisi que l'Église doit refléter, comme chacun de nous, cet amour de Dieu? Parce que la réconciliation avec Dieu, elle est verticale. Mais si elle n'est pas manifestée horizontalement, elle est égoïste, elle est pour moi. Comment voulez-vous que ceux qui sont ennemis voient Dieu s'ils ne voient pas au travers de nous qui le proclamons? Alors, quand il y a des difficultés, revenons à la croix, au lieu même où notre réconciliation a été payée. Revenons-y pour nous réengager comme des artisans de paix. Revenons là pour refléter davantage Jésus-Christ dans un monde pervers et corrompu. N'arrêtons pas de claironner Jésus-Christ sauve encore aujourd'hui. Aujourd'hui, la croix reste debout, bien-aimé. Le wagon dans lequel on a signé l'armistice, il est emporté en Allemagne et brûlé. Bien-aimé, la croix reste debout. Elle reste debout pour qui s'approche par la foi de Jésus-Christ. Alors, quand on signe la paix avec Dieu, c'est le début d'une belle aventure. Bien sûr, elle n'est pas facile. Elle est difficile. Elle réclame des efforts, mais qui en vaut la peine pour la gloire de son nom. Et par sa grâce, nous pouvons y arriver. Alors je termine et je cède la place à Jean-François. Clairons-nous, l'appel doit toujours être lancé. Soyez réconciliés avec Dieu. Alors en attendant que la paix de Dieu, Hébreux chapitre 13, que la paix de Dieu qui a amené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Soyons sérieux quand on dit Amen. Amen. Amen.